Carmina Chiara Calabrese, qui est parmi nous et qui nous vient également d'Aix-en-Provence. Elle est membre du laboratoire IREMAM. Et puis Alain Dikoff, directeur de recherche à Sciences Po Paris et par ailleurs directeur du Centre d'études et de relations internationales. Et vous savez que... Et directeur du Centre d'études et de recherche internationales, et vous savez que le GSRL a récemment passé un accord avec le CERI dans le cadre de la construction d'un observatoire international du religieux. Alors, nous écouterons ces trois interventions, nous ferons une pause, et puis nous terminerons cet après-midi par l'intervention de Vincent Soulage, qui appartient à ce laboratoire, et par la discussion menée par Florence Hegel, qui est également directrice de recherche à Sciences Po, et que je remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation. Je vais donc immédiatement passer la parole à Anna Grasso pour une intervention portant sur l'utilisation de la ressource religieuse par un parti laïque dans la Tunisie de l'après-révolution. Merci.
Bonjour tout le monde. Donc, bon, avant de commencer, je tenais donc à remercier les organisateurs de ce colloque pour donc cette opportunité donc unique de présenter mon travail de recherche. Donc, je m'appelle Anna Grasso, comme elle a déjà été dite. Je suis doctorante en sciences politiques au laboratoire Sherpa de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et mon travail de thèse, qui est dirigé par le professeur Franck Frégosi, porte donc sur le phénomène de la politisation et de la syndicalisation d'imams dans la Tunisie contemporaine. Dans le cadre de ce colloque, j'ai produit un papier qui est tiré de ce travail de recherche, intitulé donc « L'utilisation de la ressource religieuse par un parti laïque dans la Tunisie de la pré-révolution ». Donc, le parti laïque dont je traiterai est Nida Tunis, la coalition qui a gagné donc, les dernières élections législatives en fin 2014 en Tunisie, dirigée par M. Bejaïd Sepsi, l'actuel président de la République. Donc, bon, pour un petit aperçu de la situation, je ne vais pas donc revenir sur ce qui a déjà été évoqué donc ce matin par Madame Ghana, mais juste pour rappeler donc que de nombreux spécialistes, comme par exemple Laïa Lani, avaient identifié parmi les raisons de la victoire du parti Ennahda, donc aux premières élections, l'utilisation de la symbolique religieuse. Dans un entretien avec le politiste tunisien Ahmadi Redissi, durant l'été 2011, il m'avait expliqué comment le système séculier en Tunisie avait été totalement déstabilisé à cause du fait qu'il avait été mis en place par un régime autoritaire. M. Redissi avait observé comment Ennahda avait surfé sur cette vague en associant la laïcité à l'athéisme et en accusant ses rivaux d'avoir soutenu la dictature. En réponse à cela, par peur de perdre l'électorat, les partis donc, d'opposition, des partis communistes aussi, avaient affiché leur attachement à l'islam. Mais la focalisation donc, sur cette thématique identitaire s'est révélée donc, une stratégie gagnante pour le parti islamiste. Cependant, les choses vont changer suite à l'émergence d'un groupe de militants se réclamant proche de la tendance donc, salafiste. Pour beaucoup de ces acteurs, la victoire d'Ennahda symbolisait donc le retour de l'islam en Tunisie. Ils retenaient que c'était leur mission de remettre donc les choses en ordre dans ce domaine. Des actions seront menées au sein des maisons closes ou bien dans des hôtels et des restaurants qui servaient de l'alcool. Un cinéma et un centre culturel seront attaqués pour avoir exposé des œuvres blasphématoires. Les universités et leurs doyens seront visés suite à la réfutation donc, d'étudiants en niqab. Des meetings politiques des partis ou bien de la principale centrale syndicale seront infiltrés, des lieux de culte visés, des mosquées sont occupées. Mais aussi la situation dans le pays va encore plus empirer suite à l'incrémentation de la violence. Le 14 septembre 2012, l'ambassade des États-Unis est la cible d'attaque de plusieurs milliers de manifestants. Ces derniers protestent contre la sortie d'un vidéo aux États-Unis qui ridiculiserait l'islam et le prophète. Deux manifestants trouveront la mort. Au Mont Chaambi, à la frontière avec l'Algérie, Les meurtres des soldats commencent fin 2012. Selon les médias, un groupe armé proche d'Al-Qaïda se serait installé dans ce territoire. Deux assassinats politiques vont secouer le pays. Chokri Belaïd, le 6 février 2013, il y a tout juste 4 ans, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013, tous les deux tués devant leur domicile. Nombreux opposants accusent donc le parti Ennahda de laxisme face à ces actions. Un grand mouvement protestataire émerge durant l'été 2013 qui mènera à la fin du premier gouvernement élu et la mise en place d'un gouvernement des technocrates qui restera en poste pendant une année avant d'organiser donc de nouvelles élections. En réponse à ces actions, des représentants d'Ennahda affichent, eux, leur rejet de ces courants salafistes violents qu'ils accusent d'être des terroristes, ils utilisent ce terme. Ils se placent comme étant d'ailleurs les plus aptes à lutter contre ce phénomène à cause de leur connaissance du terrain religieux et aussi leur présence dans les mosquées. Ils s'opposent donc à une lecture simpliste des modernistes contre islamistes. Et c'est dans ce contexte qu'émerge donc ce parti d'Ennahda Tunis. Deux sont les principales leçons qui sont apprises par ce parti depuis donc les premières élections. D'une part, l'importance de mettre en place un front uni avant d'éviter donc l'éparpillement des voix. Et deuxièmement, l'attachement à la symbolique religieuse. Donc la problématique qui régit cette présentation est la suivante. Comment le nouveau panorama post-révolutionnaire a-t-il modifié donc le rapport entre politique et religion en Tunisie? Quel type d'alliances ou de coalitions d'intérêts se sont constituées entre responsables politiques et responsables religieux? L'objectif de ce travail est donc celui de montrer la stratégie d'utilisation de la ressource religieuse mise en place par le parti Ennahda Tunis et son président Beja Caïd Essebsi pour la domination du champ politique et religieux qui s'est révélée la gagnante lors des dernières élections de fin 2014. Ce travail est basé donc sur 3 principales sources. D'abord la littérature spécialisée donc sur la question du rapport entre religion et politique. Deuxièmement, une veille d'information, surtout sur des journaux sur Internet, des pages Facebook, des personnes que j'interviewe, etc. Et dernièrement, et plus important, les terrains que j'ai effectués en Tunisie, où j'ai eu la possibilité donc, de mener un certain nombre d'entretiens avec des représentants politiques et religieux. Mais ce sont donc surtout les médias qui qualifient le parti Ennahda Tunis comme étant un parti laïque. Ce qui permet de les placer donc en opposition au parti islamiste Ennahda dans une lecture manichéenne du bon contre le mauvais. Mais la question que je me pose, donc, qu'est-ce que veut dire un parti laïque? Un parti donc, qui ne mélange pas politique et religion? Un parti composé de personnes qui ne sont pas religieuses? Donc c'est en me posant ces questions que j'ai pu observer comment ce parti, contrairement à ses définitions, a mis en place toute une stratégie donc, d'utilisation de la ressource religieuse pour pouvoir contrer son principal opposant politique. Un premier exemple de l'attachement à l'islam du parti Ennahda Tunis est son forum du dialogue des civilisations, religions et cultures, dirigé par Larousi Mizouri, un militant du parti et ancien ministre des Affaires religieuses du gouvernement intérimaire, dirigé par M. Essebsi en 2011 avant les premières élections. Ce forum a organisé des journées d'études sur les questions liées à l'islam, en association avec la Konrad Adenauer Stiftung, une fondation proche de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Un exemple de cela est la conférence organisée le 8 octobre 2013 sur le thème de l'islam en Tunisie. Les déclarations faites par M. Essebsi dans ce contexte montrent comment la tenue de ces conférences fait partie d'une stratégie pour contrer donc ses adversaires politiques. Dans son discours d'ouverture de ces journées, M. Essebsi déclare « Cette journée d'études est porteuse d'un message pour tous ceux qui veulent leurrer les Tunisiens et s'autoproclamer porte-parole exclusive de l'islam. Cependant, vouloir se placer en tant que parti qui défend les valeurs de l'islam signifie avoir une connaissance des problèmes associés à ce domaine et pouvoir proposer des solutions concrètes. Étant un parti non religieux, et dont les membres sont issus d'une éducation séculière, nous avons pu observer donc l'absence d'une réelle expertise dans ce domaine. Et c'est donc pour pallier à ce manque qu'un groupe d'acteurs religieux que les médias appellent les imams de la Zitouna va émerger lors de cette période. Tout d'abord, pourquoi utiliser le label de la Zitouna? La mosquée de la Zitouna, elle est donc la plus importante mosquée du pays. Jusqu'à l'indépendance de la Tunisie, cette mosquée était aussi donc une université où se formaient les ulémas, les savants religieux. Je ne rentrerai pas dans les détails historiques, mais ce qu'il faut retenir est le fait que suite à l'indépendance, Bourguiba, probablement aussi afin d'éviter donc l'émergence d'une opposition religieuse, choisira d'étatiser la religion musulmane. Il fractionnera ce pouvoir en créant diverses fonctions où il placera les derniers ulémas influents du pays et rendra les imams chargés des mosquées des fonctionnaires. La formation des imams s'effectuera dans le département de théologie de la nouvelle université de Tunis et la Zitouna deviendra un simple lieu de culte. Cependant, la Zitouna a toujours gardé sa place symbolique comme étant le lieu qui représentait l'islam tunisien. Ceci est un héritage qui est disputé entre les deux principales tendances du pays. Dans le discours des modernistes, la Zitouna est associée à un islam de paix proche de l'école malékite et au soufisme, en opposition à un islam rigoriste, salafiste et wahhabite. D'autre part, dans le discours d'acteurs proches de la tendance islamiste, le choix de Habib Bourguiba de fermer donc l'université de la Zitouna a fait en sorte que les Tunisiens aient perdu tous leurs repères religieux, ce qui a porté donc de nombreux jeunes à la dérive djihadiste. Les imams de la Zitouna, eux, ils défendent la première de ces deux positions. J'ai pu rencontrer donc différents imams qui partagent ce discours. Le cheikh Ferid El Beji est surtout connu pour ses prises de position à l'encontre des groupes salafistes. Il ne fait pas la distinction entre salafistes pacifiques et salafistes violentes et il considère donc qu'ils constituent une seule et même menace pour la Tunisie. Monsieur El Beji, il s'attaque surtout donc au ministre des Affaires religieuses du premier gouvernement élu, Monsieur Noureddine El Khadmi, qui l'accuse d'être proche de la tendance salafiste et d'avoir laissé des imams autoproclamés occuper les principales mosquées du pays à partir de la mosquée de la Zitouna. Monsieur Latfi Chenderli, il est surtout connu pour son action lors du sit-in du Bardo, le mouvement qui s'était mis en place suite à l'assassinat de M. Mohamed Brahmi et qui demandait la fin du premier gouvernement élu. Lors de sa prise de parole dans cette manifestation, M. Chenderli déclarera que Dieu nous protège de ceux qui se cachent derrière l'islam, de ceux qui ignorent la religion. Suite à son intervention, les manifestants vont crier « Ranouch était un assassin », un clair message donc à l'encontre du parti Ennahda et de son leader. Mais si on s'arrêtait là, la posture politique de ces imams restait quand même assez floue. Néanmoins, lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles en novembre et décembre 2014, deux événements ont confirmé l'alliance entre ces hommes de religion et le parti Nida Tunis, représenté par M. Essebsi. Le principal opposant de M. Essebsi était Mansef Marzouki, le président de la République sortant. Bien qu'issu d'un parti politique non religieux, M. Marzouki a toujours accepté de collaborer avec le parti Ennahda. C'est justement sur cette alliance qu'il sera attaqué. En outre, lors de cette campagne présidentielle, M. Marzouki s'affichera à côté d'un des principaux leaders salafistes tunisiens, M. Béchir Ben Hassen. Lors de cette rencontre, M. Ben Hassen déclarera à propos de son candidat « Votre révolution est en danger et l'injustice est à votre porte ». Les Tunisiens, n'oubliez pas le passé, regardez cet homme et son militantisme. Lui, c'est un homme droit et ses mains ne sont pas sales avec du sang, en reprochant donc à son autre opposant d'avoir travaillé sur l'ancien régime. Selon l'analyse des nombreux acteurs que j'ai pu interviewer, ce sera aussi donc pour répondre à cette alliance que M. Essebsi choisira de s'afficher avec les imams de la Zitouna lors de deux épisodes distincts. L'un des imams présents lors de la première de ces deux rencontres que j'ai pu interviewer refuse donc de voir un mélange entre politique et religion du fait que la première de ces deux réunions a eu lieu dans un hôtel et pas dans une mosquée. Cependant, la deuxième rencontre aura lieu dans le mausolée Sidi Belhassen Chedli, lieu de réunion de la confrérie soufi Chahediliya, d'où sont issus de nombreux ulémas tunisiens. Cette conférence dans un lieu de culte va justement contre les reproches qui avaient fait contre le parti Ennahda d'utiliser donc les mosquées, les lieux de culte pour la propagande de leur parti. Donc pour conclure, voilà, dans cette présentation, j'ai essayé de démontrer donc l'utilisation de la ressource religieuse de la part Denis Datounes, un parti politique moderniste considéré par de nombreux acteurs et médias comme étant un parti laïque, qui n'est pas donc, qui à la différence du parti islamiste Nahda n'est pas censé mélanger religion et politique. Mais contrairement à cette supposition, les exemples et les épisodes que j'ai présentés montrent comment donc ce parti et son président ont utilisé la symbolique religieuse pour renforcer leur aura politique. Le forum donc du dialogue des civilisations, religions et cultures va permettre d'échanger l'image du parti en affichant donc une préoccupation quant aux questions liées à l'islam et sa place en Tunisie, aussi que dénouer des relations entre politiciens, hommes de religion et universitaires spécialistes de ces questions. Et l'alliance avec les imams de la Zitouna permet aux politiciens, qui pour la plupart ne possèdent pas donc un habitus religieux, d'utiliser ces acteurs afin de participer à la lutte pour le contrôle de ce champ. Cette stratégie va donc permettre de contrecarrer les courants proches de l'islam politique, mais aussi le candidat Monsef Marzouki, accusé de s'être compromis avec ces acteurs. Comme beaucoup donc des spécialistes sur cette question l'ont longuement souligné, la principale raison du conflit sur l'emprise de la religion est politique. En effet, les partis politiques tunisiens, en Tunisie, donc, ils savent qu'en ayant le contrôle sur le message religieux, ils pourront plus facilement rallier le peuple à leur cause. Le politologue Abderrahim Lamchichi écrit « En Tunisie, même si la sécularisation sociale est objectivement profonde, l'islam reste toujours potentiellement un héritage mobilisateur. Pour cette raison, donc, aucun parti ne semble être prêt à sacrifier cette arme politique. » Merci.
Bien, merci beaucoup pour cet exposé qui nous permet de remettre en cause la fameuse dichotomie parti islamiste, parti moderniste. On voit bien que même du côté d'un parti moderniste, il peut y avoir un usage, même s'il s'agit d'un usage intéressé, instrumental, du référent religieux. Alors évidemment, il faudrait peut-être se poser la question de l'effet performatif de cet usage. Est-ce que lorsqu'on inscrit dans sa propre identité un référent religieux, il n'y a pas au bout du compte des effets normatifs à cet emploi? C'est peut-être une question que je vous poserai après la deuxième intervention concerne Herminia Chiara Calabrese, qui va nous présenter un travail sur l'engagement totalisant dans le cadre du Hezbollah libanais. Je vous cède la parole. Merci d'être parmi nous.